Vitrine. Sans doute as-tu déjà entendu dire que Paris est la vitrine du monde. Les plus grandes compagnies de théâtre et de danse, ainsi que les artistes plasticiens les plus célèbres, en ont fait un passage obligé dans les circuits de l'art. De même, c'est le lieu incontournable des créateurs de mode qui investissent beaucoup d'efforts pour montrer leur création ici, que ce soit à travers les défilés de mode, les publicités et bien sûr, les vitrines comme celles que l'on peut trouver un peu partout. Cette ville a toujours été le point de référence de nombreuses autres villes. En général, les villes sont la concrétisation d'utopie. Leurs contours, leurs frontières et leurs contrastes façonnent les relations de leurs habitants. J'ai toujours pensé que la rue et l'espace public, qui sont considérés comme des espaces extérieurs, sont en réalité l'intérieur de la société. Le lieu où notre subjectivité est mise en dialogue avec les autres. L'espace dans lequel nous entrons pour devenir des êtres sociaux. Maintenant, commençons à marcher. Fais attention en traversant la rue, juste devant la vitrine des chaussures Philippe Sorsetto. Et une fois sur place, regardons comment les vitrines nous ceinturent et nous sarotissent avec leur sensualité et leurs beaux objets. Momoni, Bâche, Flotte, Balibaris. As-tu réfléchi au nombre de fois où nous nous déplaçons pour consommer des produits? Combien de fois nos pas dans la ville ne sont faits que pour chercher un objet dont nous avons besoin ou dont nous pensons avoir besoin? Tous ces déplacements que nous faisons pour couvrir nos besoins ne sont pas des promenades. Profitons de cette occasion pour marcher sans désir de consommer quoi que ce soit. Pour marcher en regardant la ville comme on regarderait un paysage qui attend que nous dialoguions avec lui. Commençons par avancer sur ce trottoir et descendons la rue en direction de la publicité Bâche. Après les prochains croisements, nous dépasserons les cafés Les Saint-Gervais, puis nous nous arrêterons devant un jardin. Je t'avoue que dès que j'ai su que nous allions nous rencontrer, j'ai immédiatement pensé à toutes les choses que j'avais envie de te raconter. J'ai réfléchi à la façon de faire de cette balade une promenade au cours de laquelle je pourrais attirer ton attention sur des aspects intéressants qui relient cette ville des Lumières à la grande ville de Mexico. J'ai trouvé beaucoup d'indices à partager avec toi, rien que tu ne puisses trouver sur Google, Wikipédia ou une bonne chaîne YouTube. J'ai laissé écarter cependant. Certaines choses comme, par exemple, le fait qu'à Mexico, il y a une avenue appelée Paseo de la Reforma qui a été conçue en s'inspirant de l'avenue des Champs-Élysées, un jardin appelé Alameda Central, inspiré du jardin des Tuileries, et une balustrade parisienne, Art Nouveau, à la sortie du métro Bellas Artes. Elle a été échangée contre la magnifique peinture murale El Pensamiento y Alma Huicholes du maître Santiago Santos de la Torre et de sa famille, que l'on peut voir dans un couloir de la station du métro de la ligne 1 Palais Royal Musée du Louvre, situé juste à l'une des entrées souterraines menant à la mezzanine du Musée du Louvre. Tous ces liens aux correspondants sont le résultat de diverses anecdotes historiques que, comme je te l'ai dit, tu peux trouver sur Internet ou dans des livres d'histoire. Mais il y a d'autres histoires qui ne figurent pas dans les livres, qui n'y sont pas racontées, parce qu'elles ne sont pas considérées comme importantes. Les histoires de ceux d'entre nous qui ont vécu dans cette ville et qui, en tant qu'étrangers, ont peu à peu tissé des liens quotidiens avec Paris. Es-tu arrivé devant l'entrée du jardin de l'hôtel Salé Léonore Fini? Si c'est le cas, arrêtons-nous un instant. Cherche les panneaux verts près de l'entrée. J'aime ce jardin parce que je peux imaginer ce qui était cette zone avant de devenir un quartier. Les panneaux indiquent qu'au Moyen-Âge, des arbres fruitiers et des plantes aromatiques poussaient ici. Aujourd'hui, c'est l'arrière du musée Picasso, cet énorme bâtiment que tu vois au fond. Mais si nous prenons une grande inspiration, nous pouvons encore sentir les arômes de ces plantes d'une autre époque. Ce jardin rend hommage à Léonore Fini, artiste peintre, dessinatrice et illustratrice surréaliste d'origine italo-argentine. Si elle vivait aujourd'hui, se présenterait probablement comme une personne non-binaire. Sais-tu ce que cela signifie? Léonore ne s'identifiait ni comme femme, ni comme homme, mais plutôt comme une personne ouverte à l'exploration des aspects de l'érotisme et de la sexualité au-delà des canons de son époque. Léonore a collaboré avec de nombreux écrivains, cinéastes et designers tels que Georges Bataille, Jean Cocteau, Federico Fellini et Elsa Schiaparelli. Elle a fait les portraits de l'actrice mexicaine María Félix.
Nunca he querido a nadie como me quiero yo, a mí misma. Entonces nadie me ha podido hacerme sufrir.
À plusieurs reprises, immortalisant son image dans des tableaux tels que Las dos Marías et Reina de Fuego. Son grand talent me fait penser à plusieurs femmes qui ont été avant-gardistes et dont nous comprenons, longtemps après, la grandeur de la force rebelle. Si je devais penser à une figure mexicaine rebelle, même avant cette époque, je pourrais évoquer Antonieta Rivas Mercado, écrivaine, comédienne, professeure et metteuse en scène de théâtre. Antonieta a été un élément déclencheur essentiel de la vie culturelle du Mexique dans les années 1920. Elle a financé de nombreux artistes peintres, écrivains et dramaturges de l'époque, tels que Manuel Rodríguez Lozano, Carlos Mérida, Javier Villarrutia, Salvador Novo, et a créé l'Orchestre Symphonique du Mexique. Elle a également été la compagne et la chroniqueuse de José Vasconcelos lors de sa candidature à l'élection présidentielle. Son père, l'architecte Antonio Rivas Mercado, a conçu l'Ange de l'Indépendance situé sur les Champs-Élysées mexicains, l'Avenida Reforma. Je tenais à parler un peu plus tôt. Antonieta est venue en France à plusieurs reprises. Elle a même fait des études de danse classique à l'Opéra National de Paris et a vécu quelques temps à Bordeaux avant de revenir à Paris. En 1931, à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame, elle s'est tirée une balle dans la poitrine. Elle est décédée quelques heures plus tard, à quelques mètres de là, à l'hôpital Hôtel-Dieu. La disparition tragique d'Antonieta fut une immense perte pour la vie culturelle mexicaine. Elle s'accompagna d'un geste honteux des représentants de l'Église qui, en guise d'excuse pour l'acte commis par Antonieta dans ce lieu sacré, offrit à la cathédrale les tableaux de la Vierge de Guadalupe. Maintenant que tu connais l'histoire d'Antonieta, tu auras probablement envie de visiter Notre-Dame de Paris. Malheureusement, elle est encore fermée pour travaux de restauration. Maintenant, continue à marcher dans la même direction jusqu'au coin de la rue. Avant de traverser, arrêtons-nous en face de la brasserie avec l'eau vin rouge.